Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Jacques Bouvresse, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France depuis 2010. Vous y avez enseigné pendant 15 ans et vous occupiez la chaire de philosophie du langage et de la connaissance. On sait que c'est sur les travaux du Cercle de Vienne, ce groupement de savants et de philosophes qui a fonctionné jusqu'à l'assassinat de son chef de file, Moritz Schlick, en 1936, que vous avez adossé l'essentiel de vos travaux. Un de vos premiers cours, celui de l'année 1996-1997, avait pour titre « La philosophie autrichienne Bolzano-Brentano-Boltzmann », puis trois années consacrées à la perception, la réalité, les apparences, et au cœur de votre enseignement, trois années vraiment magnifiques consacré à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie. Ce cours sur Gödel s'est terminé en 2006. Ensuite, qu'est-ce qu'un système philosophique? Puis un grand cours sur Leibniz qui a duré 2 ans jusqu'en 2010, date à laquelle vous avez cessé d'enseigner. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur cet enseignement, les désirs et projets qui l'ont porté, Jacques Bouvresse?
On peut revenir là-dessus, oui, avec de ma part une certaine mélancolie, évidemment, parce que je me suis occupé de beaucoup de choses différentes, hein, pas seulement du Cercle de Vienne, bien entendu, mais j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à terminer ce que j'ai commencé, parce que même si je m'astreignais, si vous voulez, à consacrer toute mon énergie à terminer les choses commencées, je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Là, en ce qui concerne le Cercle de Vienne, j'essaie d'en terminer avec la traduction d'un ouvrage de Carnap, donc la syntaxe logique du langage, que j'avais fait en 1970-1971, vous vous rendez compte, ça fait 40 ans, plus de 40 ans. Donc, je continue à m'occuper de ce genre de choses. Entre-temps, je me suis heureusement ou malheureusement lancé dans des choses encore différentes, c'est-à-dire là, je suis en train de terminer des travaux sur la musique, qui au départ, il s'agissait simplement de publier, en l'étoffant un peu, une étude sur Helmholtz et ce qu'on peut appeler la théorie physiologique de la musique, enfin la physiologie de l'oreille, si vous voulez, comme fondement possible pour la musique. Et puis ça a pris des dimensions considérables parce que j'ai regardé les relations de Wittgenstein et de sa famille avec la musique. Je me suis après ça évidemment et assez logiquement, si vous voulez, j'ai commencé
c'est
à regarder
des relations aussi, très étroites évidemment.
Absolument, oui, oui. Brahms était un grand ami de la famille. Alors du coup, je me suis lancé un peu dans une comparaison entre le cas de Nietzsche et celui de Wittgenstein, parce qu'ils ont au moins un point commun, c'est que c'était l'un et l'autre des philosophes qui considéraient la musique comme étant à certains égards encore plus importante que la philosophie. Les deux. Hein. Oui. Nietzsche a dit tout à fait explicitement que, au fond, il aurait aimé être musicien. Il voulait être musicien. Wittgenstein ne dit pas tout à fait ça, mais il lui arrive de dire, par exemple, que la chose la plus importante qu'il aurait jamais pu faire, qu'il aurait pu songer à faire et que malheureusement il n'a pas faite, c'était d'inventer une mélodie. Vous voyez, donc il y a dans les deux cas une tendance à accorder à la musique une position, une importance réellement tout à fait privilégiée, même par rapport à la philosophie. Ils se considèrent l'un et l'autre, la philosophie, ça va sans dire, comme quelque chose de très très important, mais à certains égards, la musique est encore plus importante. Alors du coup, en ce qui concerne Nietzsche, bon, j'ai commencé à regarder de façon un peu détaillée un problème auquel on s'intéresse en général beaucoup moins que celui des relations que Nietzsche a entretenues avec Wagner. Bon, dans le cas de Wagner, on sait à peu près comment ça s'est passé après une période d'enthousiasme et une rupture brutale.
Mauvaise relation.
Mais ce à quoi on s'est moins intéressé, c'est les relations de Nietzsche avec Brahms. Hein, parce que Nietzsche a été, dans sa jeunesse, il a eu une période au cours de laquelle il a été un Brahmsien fervent. Il n'a pas été très longtemps. Et évidemment, quand il rompt avec Wagner, il aurait pu, à ce moment-là, il aurait pu se dire que peut-être que Brahms représentait la solution. Il dit pas du tout. Si Wagner est la maladie de la musique, Brahms n'est sûrement pas le remède. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu ce genre de choses. Mais alors, ça devient tout de suite, dès qu'on se lance dans des recherches de ce genre, on pourrait très bien s'y consacrer tout entier et ne plus faire que ça. Donc, je me méfie, si vous voulez, de la tendance que j'ai maintenant à procéder de cette façon. C'est-à-dire, tout en sachant très bien qu'il faudrait se concentrer, que je me concentre toutes affaires cessantes sur les choses à terminer, et je ne suis pas certain que je ne vais pas céder à un moment ou à un autre à l'envie de commencer autre chose et de me remettre à explorer des choses.
Que devient ce cours sur Gödel qui était vraiment une pure merveille, un vrai chef-d'œuvre? On attend sa publication tout de même.
Bah, écoutez, la première chose à faire, alors Georges Crozet est en train d'y travailler de son côté, la première chose à faire c'est de le faire paraître en édition numérique sur le site du Collège de France. Bon, ça, je pense qu'on va y arriver assez rapidement parce que il n'y a pas un travail énorme.
C'est
à faire.
Un travail absolument unique.
C'est un très gros travail,
en
tout cas.
Oui, oui.
Mais, oui. Ah, oui, probablement, vous avez raison, il n'y a pas tellement d'équivalent de l'effort que j'ai fourni pour essayer de comprendre Gödel, pas seulement évidemment les aspects techniques, mais également les aspects proprement philosophiques, les relations de Gödel avec Husserl, enfin avec Leibniz, avec la philosophie en général. Et alors évidemment c'est tout à fait fascinant, c'est presque un monde à soi seul, hein, l'univers de Gödel qui est à la fois tellement, il est tellement profond et en même temps tellement excentrique qu'il est extrêmement difficile à comprendre, et en même temps, évidemment, c'est un homme qui est difficile de ne pas admirer, même si on ne se sent pas nécessairement toujours une grande sympathie pour les positions qu'il adopte. Mais vous avez raison, oui, c'était un travail considérable. Alors, pour répondre à votre question, oui, ce qui m'inquiète un peu à présent, c'est que j'ai aussi évidemment fourni un travail considérable sur Boltzmann, auquel j'ai consacré plusieurs années. Alors là aussi, ça représentait évidemment énormément de lectures, de textes qui sont souvent des textes extrêmement techniques. En général, le Boltzmann, c'est des mathématiques qui sont extrêmement sophistiquées. Il a d'ailleurs occupé une chaire de mathématiques pures à l'université de Vienne pendant plusieurs années. Il a d'ailleurs eu comme élève Hans Hahn, qui était le mathématicien du cercle de Vienne. Donc j'appréhende un peu de me replonger là-dedans parce que je suis maintenant un peu loin de ça. Ça fait quand même des années que je ne m'en étais pas occupé directement. Donc je redoute un peu la difficulté auquel je vais me heurter, en particulier la difficulté technique, hein, quand je me remettrai à ces textes. Donc il faudrait arriver, c'est pas facile, à les publier à peu près tels qu'ils ont été rédigés. En se disant que, bon, ils ont été produits à une certaine date et que, évidemment, 10 ans après, peut-être qu'il faudrait faire, je ferai quelque chose de différent. Mais évidemment, on est tenté de corriger, d'améliorer, enfin, vous imaginez sans peine, et de compléter, bon, toutes les difficultés qu'on peut avoir.
Juste pour revenir sur un livre que vous avez publié en 96, donc tout à fait au début de votre arrivée au Collège de France, Jacques Bouvresse, aux éditions de l'Éclat, La demande philosophique, que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? La demande philosophique qui est quand même très grande aujourd'hui, enfin la jeunesse aime la philosophie, mais c'est pas sûr qu'on ait les moyens de nourrir ce désir de philosophie.
Mais oui, c'est un peu la question que j'avais posée dans le texte que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y a une demande, effectivement, que la profession philosophique soit en mesure de la satisfaire, ça j'en suis moins sûr. Oui, on est dans une période où il est censé y avoir une demande de philosophie qui a probablement jamais été aussi grande, et qui d'ailleurs donne lieu à la publication régulière de best-sellers philosophiques, c'est-à-dire, quand j'étais jeune, c'était pas courant de voir des livres livres de philosophie se vendent en 200 000 exemplaires, mais maintenant c'est une chose qui
arrive. Oui, et puis même de les trouver dans les kiosques à journaux.
Tout à fait, on peut les trouver, on trouve certains d'entre eux dans les kiosques à journaux. Alors c'est un petit peu déconcertant, parce que évidemment, on a une tendance constante à confondre la célébrité avec l'importance, c'est-à-dire évidemment tous les gens qui sont célèbres, qui sont médiatiquement parlant, on déduit presque irrésistiblement qu'ils sont forcément les importants, qu'ils sont même les philosophes les plus importants, ce qui ne va pas toujours de soi pour tout le monde, en tout cas pour les gens qui ont un point de vue un peu professionnel. Donc on est dans l'ambiguïté permanente, c'est-à-dire on a tendance à interpréter quelques succès de librairie spectaculaires comme une preuve du fait que la philosophie n'a jamais été aussi bien reçue, qu'elle n'a jamais été aussi importante et aussi influente. Il y a cette idée que... Alors je ne sais plus si j'ai... Où est-ce que je l'ai mis ? Je voulais vous montrer... Petite citation de Nietzsche qui est assez, de ce point de vue, assez étonnante, enfin, sur l'importance qu'il convient d'accorder aux philosophes. Alors, il dit, alors, venant de Nietzsche, c'est assez sidérant. Il dit, je ne crois pas que les philosophies soient aussi dangereuses qu'elles se l'imaginent. Et il dit, c'est une remarque de 87, je crois, donc de la fin, hein, vraiment de la fin. Et il dit, au fond, les êtres humains aiment se montrer beaux, et pour ça, ils ont besoin de masques. La philosophie n'est au fond qu'un de ces masques. Alors, je ne dis pas que ça correspond à ce qu'il pensait en profondeur. C'est peut-être une remarque qu'il a faite comme ça, dans un moment de doute ou de découragement. Mais c'est assez étonnant, celui de voir un philosophe comme lui reconnaître qu'au fond... Même la philosophie pourrait n'être au fond qu'un masque dont on se couvre pour s'embellir, hein, et que en tout cas elle a peut-être pas exactement l'importance qu'elle s'attribue. Et ça, c'est évidemment dans un pays comme la France, c'est très difficile de dire ça, parce qu'on est dans un pays où on attribue à la philosophie une importance réellement exceptionnelle comparée à beaucoup d'autres pays où on lui attribue la possibilité de contribuer de façon profonde à changer les choses, hein, c'est-à-dire changer la société. En particulier, il y a cette idée que toute philosophie digne de ce nom devrait se traduire plus ou moins par un engagement politique, enfin, etc. Ce qui, là aussi, c'est quelque chose qui ne va pas de soi dans beaucoup de pays, hein, où la philosophie n'est pas censée du tout nous apprendre comment nous devons vivre et pas non plus à transformer de façon plus ou moins radicale la réalité. Par conséquent, sur la question que vous me posez, oui, ma réponse serait à peu près la même qu'à l'époque considérée, c'est-à-dire je pense qu'on est toujours un peu dans l'ambiguïté. Il y a une incertitude considérable concernant ce qu'on cherche exactement à faire quand on fait de la philosophie, et puis également une incertitude qui est à peu près aussi importante concernant ce qui est attendu exactement par le public des philosophes. S'ils veulent qu'on leur dise comment il faut vivre, c'est-à-dire qu'on leur enseigne des préceptes et des maximes de vie, évidemment, avec les gens comme moi, ils risquent d'être considérablement déçus, parce que là, je suis un peu comme Clément Rosset. Je pense pas que la philosophie a pour tâche d'expliquer aux gens ce qui est bien et ce qui est mal. Quoi. Ça, c'est quelque chose que les gens, effectivement, doivent savoir. En tout cas, il vaudrait mieux qu'ils le sachent, mais c'est pas exactement des philosophes qui peuvent l'apprendre, je crois.
Au fond, vous êtes toujours d'accord avec cette phrase de Merleau-Ponty que vous citiez dans votre leçon inaugurale, Jacques Bouvresse. On ne peut pas attendre d'un philosophe qu'il aille au-delà de ce qu'il voit lui-même, ni qu'il donne des préceptes dont il n'est pas sûr. L'impatience des âmes n'est pas ici un argument. On ne sert pas les âmes par l'à peu près et l'imposture.
Je trouve que l'à peu près et l'imposture prospèrent de façon incroyable. Et là, oui, c'est un des changements qui me semble assez frappant. On a toujours tendance, évidemment, à idéaliser le bon vieux temps, à penser que quand on était jeune, c'était beaucoup mieux. En gros, quand même, je trouve que quand j'étais jeune, je parle des années 60, même si les philosophes qui comptaient sont des philosophes auxquels je me suis souvent opposé, je serais tenté de dire, comme Mouzil l'a fait, que le sérieux s'est perdu. C'est-à-dire, je trouve que les gens étaient plus sérieux. Ils n'étaient pas forcément plus proches de la vérité. Ils pouvaient même dire des choses qui, souvent, me paraissaient absurdes. Mais ils procédaient de façon plus sérieuse, me semble-t-il.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Vous avez écrit un certain nombre d'essais, Jacques Bouvresse, chez Agone, publié chez Agone. L'un d'entre eux, l'essai numéro 2, s'appelle « L'époque, la mode, la morale, la satire ». Alors c'est très intéressant parce que, évidemment, d'emblée, dans cette conversation, vous nous avez parlé de Nietzsche. Et là, déjà, il y avait vraiment un livre important autour du Nietzsche de Oswald Spengler, le célèbre auteur du déclin de l'Occident. Et au fond, c'est un Nietzsche que les Français ne connaissent pas du tout.
C'est parce que...
C'est un autre Nietzsche.
Oui, c'est le Nietzsche de droite, disons. C'est comme ça qu'on pourrait le qualifier. C'est-à-dire, les gens comme Spengler sont des... Spengler fait partie des héritiers de droite que Nietzsche a eu. Alors je suis pas en train de dire qu'on a eu tort que les Français ont eu tort parce qu'ils ont cru que Nietzsche était de gauche. En réalité, comme Rosset le dit, ça me paraît très juste. Nietzsche n'est assurément pas un penseur de gauche, mais c'est pas non plus un penseur d'extrême droite. C'est pas non plus le genre de penseur que les Nietzschéens comme Spengler ont cru trouver en lui. Mais il est vrai que alors il faut que j'indique que Nietzsche est un auteur auquel je me suis toujours intéressé hein, de façon tout à fait directe. Bon, presque chaque année je relis quelque chose de Nietzsche, et dernièrement j'ai publié donc un petit livre sur les d'une part sur le problème de la vérité chez Nietzsche et d'autre part sur la façon, à mon avis très contestable et en tout cas très partielle et très orientée dont Foucault
oui.
lit Nietzsche.
On va en parler, Jacques Bouvresse.
C'est prévu que nous en parlions. Mais en tout cas, je voulais dire que oui, je me suis toujours intéressé de près à Nietzsche et je me suis intéressé, alors à l'époque dont vous parlez, ce qui m'intéressait c'était tout ce qui, chez Nietzsche, pouvait effectivement inciter à au genre d'interprétation qu'on trouve chez Spengler, avec un certain nombre de poncifs, de refrains qui sont assez caractéristiques de pas seulement de la droite, mais même de l'extrême droite. Alors il y a effectivement toute une série de choses chez Nietzsche qui donnent l'impression d'aller dans ce sens-là, mais heureusement il n'y a pas que ça. Mais en ce qui concerne le Nietzsche de gauche, alors ça, oui, pour le coup. J'ai eu énormément de problèmes parce que j'ai jamais compris que comment on pouvait faire un penseur de gauche transformer en un penseur de gauche quelqu'un qui de façon aussi systématique et aussi violemment se prononce contre l'égalité, contre la démocratie, contre le socialisme, qui défend l'autorité, la tradition, qui défend les gens qui sont capables de commander contre les gens qui ne sont faits que pour obéir, parce que ça c'est des choses qu'il dit très explicitement, c'est pas une question d'interprétation. Donc j'ai eu du mal à comprendre bien qu'on puisse trouver des raisons jusqu'à un certain point, j'ai eu du mal à comprendre la facilité avec laquelle on s'est fabriqué un Nietzsche de gauche qui évidemment était présenté des avantages considérables dans les années 60. C'était pas difficile de comprendre l'usage qu'on pouvait en faire, y compris l'usage politique, hein, c'est-à-dire que Nietzsche a séduit toute une orientation chez les gauchistes politiques. À cause de, évidemment, l'impression qu'il peut donner, celui de se livrer à une critique fondamentale et radicale du genre de société dans lequel nous vivons, à cause d'un certain côté anarchiste qui peut donner l'impression d'avoir, tout en étant par ailleurs quelqu'un qui, encore une fois, défend l'autorité et la capacité de commander. Donc c'est un auteur qui, de ce point de vue-là, on l'a dit souvent, c'est une banalité de le rappeler, qui peut être utilisé un peu de n'importe quelle façon. Cela dit, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on peut faire dire au texte ce qu'on veut. La plupart du temps, on peut leur faire dire des choses assez différentes, mais il y a aussi toute une série de choses qu'on ne peut pas leur faire dire. Heureusement, je veux dire, donc, on dit souvent qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. C'est pas vrai non plus. On peut leur faire dire beaucoup de choses différentes, mais il y a un tas de choses qu'on peut pas leur faire dire. Et Nietzsche et la plupart des philosophes, c'est pareil. Enfin bon, vous avez eu raison de me poser la question parce que là aussi, j'ai dû interrompre le travail que j'avais commencé sur Nietzsche après avoir fait ce petit livre parce que je pourrais très bien ne plus faire que ça jusqu'à la fin de mes jours. Et par conséquent, pour le moment, bon, j'ai laissé Nietzsche un peu de côté. Mais je pense que j'y reviendrai sûrement bientôt.
Alors, 2001, ça c'est un monument. La voix de l'âme et les chemins de l'esprit, 10 études sur Robert Musil. Vous êtes devenu Jacques Bouvresse, alors pardon, je ne suis pas sûre que vous aimiez vraiment le mot, mais quand même, un spécialiste de Musil. On ne peut pas lire Musil sans passer par vos livres, qui sont absolument magnifiques. Vous avez beaucoup écrit sur Musil. C'est sans doute peut-être, j'allais dire, quand même, l'écrivain que vous connaissez le mieux, mais vous connaissez bien aussi Karl Kraus, par exemple.
J'espère.
Et sur lequel vous avez aussi beaucoup écrit. Vous continuez la lecture de Musil, vous trouvez des choses nouvelles encore à lire Musil?
Ah oui, mais c'est comme, vous savez, c'est comme tous les grands auteurs. Chaque fois qu'on y revient, tout d'un coup, on tombe sur un passage, on se dit, ah, mais comment, je n'avais pas remarqué ça.
Bon, c'est inépuisable. Hein.
Oui, absolument. Ça m'arrive avec Wittgenstein, ça m'arrive constamment aussi avec Nietzsche. Et avec Musil, ça peut être le cas. Puisque vous avez cité Kraus, je dirais que cette année, j'ai éprouvé quand même une satisfaction considérable, puisqu'on a, d'une certaine manière, la grande tragédie de Karl Kraus sur la guerre de 14, donc les derniers jours de l'humanité, est entrée un peu dans l'histoire du théâtre, pour ce qui concerne la France, en tout cas, puisqu'il y a eu une représentation qui a été donnée par la Comédie française, à laquelle j'ai d'ailleurs assisté. Et ça aussi, c'est une bonne et une grande nouvelle. Il y a trois auteurs autrichiens, effectivement, vous avez raison, auxquels j'ai consacré une attention tout à fait particulière et qui font partie de mes livres de chevet, évidemment, encore aujourd'hui. C'est Wittgenstein, Musil et Kraus, qui sont dans des genres évidemment très différents. Parce que, par exemple, entre Kraus et Musil, qui se sont ignorés totalement l'un l'autre, ils ne pouvaient pas se voir en peinture. Si on
Mais Musil n'aimait pas du tout.
Musil n'aimait pas du tout Kraus, et ouais. Réciproquement, enfin, Kraus était au moins, pour le moins, indifférent à ce que faisait Musil. Mais je n'ai pas eu de problème, si vous voulez, de choix à faire entre les deux. Je suis capable d'les admirer l'un et l'autre. Pas pour les mêmes choses.
Je crois que vous aimez bien aussi Joseph Roth.
Ah oui.
C'est magnifique.
Oui, vous avez raison.
C'est un écrivain sur lequel vous n'avez pas fait de livre.
Non,
mais que vous aimez lire beaucoup et qui est vraiment un très bel écrivain.
Vous avez raison. Je l'ai utilisé quelques fois, notamment certains des textes qu'il a écrits là. À l'approche de l'arrivée au pouvoir des nazis, il y a des articles
dans les journaux
qui sont extraordinaires. Il y a une lucidité.
Un journal aussi, absolument. Je crois.
Et puis alors, je l'admire aussi énormément comme écrivain. Il écrit évidemment pas du tout comme Musil, qui apparemment lui-même n'aimait pas beaucoup Roth. Hein. Il n'était pas du tout attiré, encore moins séduit par la prose de la façon d'écrire de Roth. Mais Roth, évidemment, c'est pas du tout la même chose que Musil, parce que Musil fait preuve d'une ironie constante à l'égard de la vieille Autriche, tandis que Roth est plutôt l'écrivain qui célèbre les vertus de la vieille Autriche, l'Autriche traditionnelle, et qui déplore évidemment qu'elle ait qu'elle a disparu. Ni Krauss ni Musil ne sont dévorés par le regret de ce qu'a été l'Autriche. Hein. D'une certaine façon, ils sont conscients l'un et l'autre que l'Autriche a mérité ce qui lui est arrivé en 1914. Est-ce qu'ils ont raison ? Bon, on pourrait en discuter. Il y a des gens qui ont une certaine tendance à idéaliser le... Enfin, même Musil le fait avec un peu d'ironie, hein, cette Autriche, de cette Autriche disparue qui fut sur tant de points sans qu'on lui en rende justice exemplaire. C'est comme il dit dans l'homme sans qualité. Donc je me suis intéressé à tous ces penseurs-là, c'est vrai. Et puis on pourrait ajouter Gödel, puisque c'est aussi un Autrichien.
Mais oui.
Qui est né à Brünn, donc la ville de Bay, là dont il est question dans l'homme sans qualité, c'est Brünn, ou Musil, c'est une ville que Musil a bien connue, puisqu'il y a vécu. Et Gödel, donc, est lui-même originaire de Brünn, donc il est originaire de la partie allemande de la ville de Brünn.
Alors, il y a un écrivain français qu'on retrouve systématiquement dans vos textes, et dont vous ne parlez jamais de front, Jacques Bouvresse, c'est Paul Valéry.
Ah ben si, j'en ai parlé dans plusieurs textes quand même.
Oui, vous en parlez, mais vous ne l'abordez pas de front, comme il n'y a pas un grand livre sur Valéry, comme sur Krauss, Musil, oui. Etc. Et pourtant, c'est un auteur qui visiblement vous accompagne aussi.
Ah oui, ça, ben, vous voyez, là j'ai sorti ce petit-là de la philosophie.
Juste
ça, c'est un livre, ça. Petit, oui. Hein, petit. Mais oui, alors vous avez raison, ça c'est un auteur que je pratique constamment depuis un autre, hein, depuis les années 60, grosso modo. Et j'ai même en 1971, donc vous voyez, ça remonte à plus de 40 ans, j'ai participé à un colloque qui a eu lieu à Montpellier, sous la direction de Madame Judith Robinson Valéry, qui était la belle-fille de Valéry, donc la femme de Claude Valéry. Elle avait organisé un colloque avec des scientifiques. Il y avait en particulier René Thom, il y avait Prigogine, il y avait le professeur Lhermitte, enfin il y avait Jean Bernard, enfin oui, des gens très illustres. Alors elle a intitulé ça « 13 savants redécouvrent Valéry ». C'était en 71. Et alors, évidemment aujourd'hui ça paraît très étonnant de dire « redécouvre » parce que il semble quand même que Valéry soit quelqu'un de très connu, et toujours été, bon, très connu, en particulier connu des scientifiques. Bon, chez les littéraires, il a connu, comme toujours, comme c'est toujours le cas, des éclipses plus ou moins importantes. Mais donc, j'ai eu l'honneur de participer à cet ouvrage collectif. Et du coup, j'ai été promu savant. Vous voyez, 13 savants redécouvrent Valéry. J'étais un des 13 savants. Et dans ce livre-là, donc, j'ai produit une contribution qui portait sur Valéry, le langage et la logique. Et donc, j'avais évoqué accessoirement un sujet très intéressant, celui des relations de Valéry avec le cercle de Vienne. Or, Valéry, qui s'intéressait effectivement aux mathématiques, à la logique, à bien d'autres choses du point de vue scientifique, était intéressé aussi à la physique, il connaissait très bien Jean Perrin, enfin bon. Alors, il y avait cet aspect, si vous voulez, de la relation intime avec les sciences, avec le monde scientifique, qui m'intéressait particulièrement. J'ai toujours trouvé, celui qu'il y a chez beaucoup de littéraires et beaucoup de philosophes, une ignorance et un mépris des sciences que je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand on vit dans une société qui est déterminée à ce point, structurée par la science et par les productions et les acquis de la science, alors on peut se réjouir de cette importance de la science, ou trouver qu'elle est tout à fait excessive, incongrue, regrettable, etc. Mais elle est là. Elle est là, et je pense que du coup, ça crée, au moins du point de vue intellectuel, c'est une obligation de comprendre ce qu'il en est de la science, ce que beaucoup de philosophes n'ont pas l'air de penser du tout. Mais Valéry, évidemment, c'était le contraire. Hein. Valéry, était pas, il avait beau enfin, être
Valéry,
un poète,
c'est très intelligent.
Ah, ça, il était presque, presque trop. Je crois que c'est T.S. Eliot qui dit que Valéry était trop intelligent pour être philosophe. Texto, hein. Il était trop intelligent pour être philosophe parce que la philosophie exige une forme de croyance. Vous savez, si vous voulez être philosophe, il faut arriver à croire, et il faut une foi d'une certaine sorte. En particulier, une foi, si vous voulez, dans certaines... capacités de l'esprit qui ne vont pas de soi. Par exemple, l'aptitude métaphysique. Est-ce que oui ou non, il existe une faculté intellectuelle qu'on peut appeler la faculté métaphysique? Est-ce qu'elle est en mesure de nous ouvrir une forme de connaissance qui est quand même d'un type assez particulier, évidemment, parce qu'il y a toute la question de la vérification, etc. Donc, cette idée d'Eliot, hein, qui a quelque chose de pertinent, même si elle est un peu exagérée.
Bah, c'est-à-dire que...
Il faut être un peu croyant pour réussir à être philosophe. J'ai aussi ce problème. C'est pour ça que j'arrive à comprendre que Valérie l'a eu.
En tout cas, il y a une rivalité entre les philosophes et les littéraires sur la question de la vérité.
Oui, c'est sûr.
Quelle sorte de savoir est-ce qu'on peut trouver dans un livre, dans un roman, dans une fiction?
Oui.
Les littéraires revendiquent une vérité qui dépasse bien celle de la philosophie, et les philosophes se pensent quand même, non pas détenteurs de la vérité, mais en tout cas proposent des approches de la vérité tout à fait différentes. Enfin, comment est-ce que vous réglez vous-même ce problème qui doit sans doute vous traverser, puisque vous êtes à la fois un grand lecteur de fiction et un grand philosophe amoureux de la vérité, très à l'affût en effet de ce qui se passe aussi dans les sciences? Qu'est-ce qui se passe, Jacques Bouvresse? Est-ce que vous vous sentez... comment est-ce que vous voyez la question?
Ben, je la vois comme une question non résolue. J'aimerais bien résoudre, évidemment. Mais je l'ai abordé, je l'ai même attaqué, si on peut dire, un peu de tous les côtés, parce que j'ai publié un livre intitulé La connaissance de l'écrivain, dans lequel j'ai abordé une question qui est à peine effleurée, sur la plupart du temps, qu'on pourrait appeler, l'épistémologie de la connaissance littéraire. C'est-à-dire, la plupart des gens pensent qu'il y a une connaissance littéraire, c'est-à-dire, quand on lit un roman, on acquiert un roman qui fait partie des bons, évidemment, des bons romans, on acquiert une forme de connaissance que la littérature semble être seule en mesure de nous procurer. C'est-à-dire, le sentiment qu'on a, c'est qu'on ne pourrait pas arriver à quelque chose du même genre, ni par la philosophie, ni en appliquant la méthode des sciences. Hein, puisque, bien sûr, ce n'est pas par la méthode expérimentale qu'on acquiert ce genre de connaissances.
Enfin, uniquement, en tout cas, par la fiction, parce que, ni non plus par une enquête.
Exactement.
Une enquête ethnographique, par exemple, nous en apprend infiniment moins qu'une lecture de Flaubert sur la province.
Ah, c'est ça qui est, vous avez raison, c'est la question que Freud se l'est posée, mais tout le monde se la pose. C'est-à-dire, on a l'impression, par exemple, dans le cas de Proust, hein, Proust n'est pas seulement un psychologue extraordinaire, c'est aussi un sociologue extraordinaire. Mais enfin, oui. Bourdieu a écrit des choses très très intéressantes là-dessus. Mais même Bourdieu n'a pas répondu, à mon sens, complètement à la question de savoir comment c'est possible. Vous savez, Freud s'étonnait, avec raison, que des gens comme Dostoïevski ou Shakespeare, parce que c'est vrai aussi bien de l'un que de l'autre, et comme de la plupart des grands écrivains, qu'ils aient pu arriver presque, on a l'impression que ça s'est fait tout seul, hein, à une forme de connaissance que lui avait eu le plus grand mal à acquérir, en surmontant des obstacles considérables, etc. Et ça, c'est une question sur laquelle j'aurais bien aimé réussir moi-même à clarifier un peu les choses, mais j'ai pas l'impression d'y être tellement arrivé. Simplement, ce contre quoi j'ai protesté dans le travail que j'ai fait sur ce point, c'est la tendance qu'on a quand même à adopter des solutions paresseuses, si vous voulez, qui consistent à simplement se contenter de dire et de répéter de façon, avec une certaine insistance, qu'il y a une forme de connaissance littéraire qui est supérieure à la connaissance scientifique, parce que bien qu'on soit incapable de la caractériser de façon plus précise, et qu'on essaie même pas, en fin de compte, de le faire. Donc il y a au moins une chose dont je me suis abstenu, et qui me semble cruciale, c'est d'essayer d'établir une hiérarchie, si vous voulez, entre ces différentes formes de connaissances. C'est-à-dire, on ne me fera pas dire ni que la connaissance scientifique est supérieure à la connaissance littéraire, si on veut bien admettre qu'il y en a une, ou à la connaissance philosophique, ni l'inverse, quoi. Ça, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'empêche que, il reste quand même un travail considérable à faire pour essayer d'y voir un peu plus clair. J'ai d'ailleurs produit sur ce thème une conférence qui s'intitule « Y a-t-il une épistémologie de la connaissance littéraire et peut-il y en avoir une ?»
Où est-ce qu'on trouve cette conférence ?
Alors, ça a été publié en édition numérique, mais je ne suis pas sûr que
ce
soit...
Très bien, donc nos auditeurs peuvent la trouver sur Internet.
Mais, oui, tout à fait. Spontanément, j'aurais tendance à penser que, comme Wittgenstein, c'est-à-dire que la religion, ça devrait être... une affaire plus ou moins personnelle, si vous voulez, entre soi et Dieu, si on est prêt on est disposé à exprimer la chose de cette façon. Donc, je préférerais, si vous voulez, que l'importance de la religion en tant qu'institution diminue. Mais je suis pas sûr que les choses aillent dans ce sens. Parce que là, j'étais quand même très surpris de ce retour du religieux dont on parle tant, qui me paraissait, moi, être à tous égards une illusion, enfin, évidemment, exploitée abondamment de façon politique, hein, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a réellement un retour du religieux ou est-ce qu'il y a un retour de l'exploitation du religieux par le politique? Bon, c'est difficile à dire, mais on est arrivé à un stade où les choses deviennent prennent une tournure extrêmement inquiétante parce que on a l'impression d'avoir pas seulement le retour du religieux, mais également le retour des guerres de religion à certains égards. Enfin, vous voyez, donc, je trouve ça alors absolument désolant. Et je trouve que, comment dire, la complaisance dont la philosophie fait preuve à l'égard de ce phénomène-là m'inquiète au plus haut point. Et je ne peux qu'observer, une fois de plus, que la philosophie se situe toujours beaucoup plus facilement du côté de la théologie et de la religion que du côté de la science. C'est-à-dire la science, c'est toujours quelque chose pour un philosophe à quoi il faut résister. C'est toujours quelque chose de menaçant. La théologie ou la religion, beaucoup moins. On a plutôt tendance à se ranger de son côté parce que il y a une espèce de solidarité qui se manifeste spontanément entre la philosophie et la religion face à la menace de la science. J'avais été frappé très tôt quand j'étais jeune, et je l'ai dit à différentes reprises, par cette asymétrie qu'il y a, si vous voulez, dans les relations de la philosophie, d'une part avec la science, qui est la menace, encore une fois, toujours, plus ou moins, et puis la religion. Il y a eu, si je me souviens bien, un livre de Dominique Janicot intitulé « Le tournant théologique de la phénoménologie », dans lequel il avait parlé de façon très intelligente et assez remarquable de ce problème, c'est-à-dire le lien étroit qui semble y avoir eu toujours, spécialement dans la philosophie française, entre la philosophie et la théologie.
On va parler de votre dernier livre, Jacques Bouvresse, Nietzsche contre Foucault, sur la vérité, la connaissance et le pouvoir. C'est publié donc chez Agone. Alors, vous pensez que Foucault a interprété Nietzsche, non pas de travers, mais à l'envers. Et vous lui reprochez au fond d'avoir foucaultisé Nietzsche.
Oui, c'est ce qui m'a déconcerté chez Foucault, en particulier dans les textes que j'ai analysés, puisque je n'ai pas utilisé toute l'œuvre complète de Foucault, mais les textes consacrés plus spécifiquement à la volonté de vérité et à la volonté de savoir. Et on a l'impression, en effet, que Foucault renverse le rapport de cause à effet qui est censé exister entre la vérité et la connaissance. Hein, parce qu'il dit explicitement que, alors on ne sait pas trop à certains moments si c'est ce que Nietzsche est censé dire ou si c'est ce que lui dirait de son côté, mais en tout cas, il donne l'impression de penser que la vérité est plus un effet de la connaissance qu'une cause. Hein, c'est-à-dire, il y a de la vérité parce qu'il y a de la connaissance, et non pas comme un réaliste le dirait, parce qu'il y a d'abord des vérités à connaître, et puis on en acquiert ou on n'en acquiert pas la connaissance.
Vous lui reprochez d'être nominaliste, en fait.
Oh, nominaliste en soi, je ne sais pas si ça me gênerait tellement, mais d'être, disons, anti-réaliste, si vous voulez, en ce sens que c'est parce qu'il y a du dire vrai qu'il y a de la vérité. Si vous voulez, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le dire vrai, qui peut se décrire en termes historiques, sociologiques, etc. Du moment qu'il y a du dire vrai, il y a de la vérité, mais quelqu'un qui a une conception tant soit peu réaliste de la vérité, dirait que ça ne peut pas se passer de cette façon. La vérité possède nécessairement une dimension qu'on peut appeler ontologique, c'est-à-dire il y a une certaine façon dont les choses sont, et puis quand nous disons que les choses sont telles et telles, et qu'elles se trouvent être effectivement telles et telles, nous disons quelque chose de vrai. Mais c'est pas comme ça que, c'est pas du tout de cette manière-là que Foucault présente les choses. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a, le dire vrai, qu'il décrit, encore une fois, dans des termes historique, sociologique, politique, etc. Et à aucun moment n'est évoquée la question de savoir si derrière ce dire vrai, il y a ou non un vrai qui était à dire. Hein. On a l'impression que c'est une question qui ne l'intéresse pas. Je pense que c'est ce qu'il répondrait si on lui posait la question. Il concéderait probablement que on a le droit, si on y tient, de s'intéresser à ça, mais que c'est pas son affaire à lui. Donc il y a deux problèmes différents. Est-ce que c'est une position qui peut être défendue? Je crois que j'ai dit à un moment donné que la théorie de Foucault, si on peut parler de théorie, c'est pas une théorie de la vérité, c'est une théorie du dire vrai avec un trait d'union. Et dans dire vrai, vrai fonctionne comme une espèce d'adverbe, c'est-à-dire la vérité, que c'est quelque chose qui qualifie le dire, mais qui qualifie le dire presque sans avoir pour se faire à passer par une relation avec la réalité, ce qui est évidemment très étrange. On a l'impression d'une espèce d'autonomisation, pas seulement du dire, mais du dire vrai lui-même, qui pourtant semble impliquer, dans l'usage, disons, naïf qu'on fait du mot vrai, semble impliquer intrinsèquement hein, ce rapport à la réalité. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, il y a un autre problème, qui est la question de savoir si Foucault a bien lu Nietzsche, et s'il fait dire vraiment à Nietzsche ce que Nietzsche a réellement dit. Là, je crois également que non. J'ai au moins autant de difficultés avec ce deuxième aspect de la question. Je pense qu'il a lu Nietzsche de façon très partielle et très orientée. Parce que quand on lit le Nietzsche de la fin, en particulier celui de l'Antéchrist, donc qui date de 1888, c'est-à-dire la dernière année, disons, de lucidité de Nietzsche, donc dont on peut penser qu'on y trouve les pensées finales, pour autant qu'on puisse parler de quelque chose de ce genre, parce que Nietzsche a quand même encore vécu une douzaine d'années. Mais enfin, disons, au moment, en tout cas, où il écrit l'Antéchrist, Nietzsche défend des positions qui sont étonnamment proches des positions traditionnelles. C'est-à-dire, par exemple, il dit, il s'indigne qu'on puisse croire sans donner des raisons, donc ce qui est évidemment très éloigné de l'idée de la volonté de vérité comme étant simplement une forme de la volonté de puissance. Ce que Nietzsche dit, c'est si vous êtes disposé à croire, vous devez avoir la volonté de vous assurer que c'est bien la vérité que vous croyez. Et ça veut dire que la vérité peut pas être un produit de la volonté de puissance. Bon, et il dit même à certains moments qu'il y a des façons scientifiques de parvenir à la vérité que la religion ignore. Hein, il va jusqu'à dire que le besoin de croire est l'ennemi numéro un de la vérité. Il y a une formule où il dit Il dit le besoin de croire est un ennemi. Alors, il ne dit pas la vérité, mais il dit de la véracité, c'est-à-dire la croyance est l'ennemi numéro un de la recherche de la vérité, parce que on est prêt à sacrifier constamment la vérité à la croyance. On a tellement besoin de croire qu'on oublie de s'assurer, on néglige de s'assurer que ce qu'on croit est bien le vrai. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le souci de la véracité. Le souci de la véracité, c'est le souci de vérifier que ce qu'on croit est vrai, ou en tout cas a des chances d'être vrai. Donc oui, il insiste particulièrement sur des dimensions du problème qui sont tout à fait traditionnelles, hein, c'est-à-dire il faut chercher des raisons, il faut s'assurer que la croyance est vraie, etc. Si la vérité était simplement une forme de la volonté de pouvoir, il n'y aurait pas besoin de dire ça, il suffirait de reconnaître à peu de choses près que chacun est à la recherche de sa vérité, qui n'est rien d'autre que la forme particulière que prend chez lui la volonté de puissance, vous voyez, etc. Donc en réalité, il y a plusieurs Nietzsche de ce point de vue-là, et j'ai l'impression que Foucault n'en voit que, dans le meilleur des cas, qu'un seul. Bon, il y a tout un aspect de la pensée de Nietzsche qui ne semble pas l'avoir intéressé. Bon, c'est peut-être avez-vous des questions plus précises à me poser sur le traitement que j'ai fait subir à Foucault.
Non, je pense qu'il aurait été heureux de vous entendre, en fait.
Ah, vous pensez ?
Oui, je pense qu'il aimait le débat.
Oui, il y a des personnes qui m'ont dit ça, en particulier Jean-Claude Pariente m'a dit que si je l'avais connu, je me serais bien entendu avec lui.
Oui, j'en suis persuadé.
C'est possible. Il faut que je dise peut-être, bon, pour vous et pour les auditeurs qui nous entendront, que j'ai dû parler à Foucault, je crois, une fois de vive voix et une fois au téléphone. Donc je n'ai pour ainsi dire pas eu de... Je peux même dire, je n'ai pas eu du tout de contact avec Foucault. Donc comment, si vous voulez, je n'ai aucune connaissance de Foucault. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut séparer complètement l'homme du philosophe, parce que je suis bien convaincu qu'on ne peut pas faire complètement ce genre de séparation. Mais peut-être que oui, que le côté un peu provocant de ce que je... Plus qu'un peu, d'ailleurs, de ce que j'ai écrit, l'aurait...
Non, mais il n'aurait pas reculé devant une disputation, par exemple.
Ah oui, 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 ça c'est possible.
C'était pas le genre.
Ça c'est possible, mais
c'est pas sûr. Il aurait été au contraire.
Oui, oui, vous avez raison, mais c'est pas sûr que j'aurais eu le dessus. Parce que il est redoutable, il est impressionnant, il a une facilité... au bon et au mauvais sens du terme, hein, une facilité rhétorique tellement extraordinaire que même dans les cours qui sont quand même un peu moins écrits que les textes qu'il a publiés, il a une facilité prodigieuse. Bon, il y a une érudition d'un côté, puis on parlait il y a un instant de la différence entre ce qu'on essaie de dire puis la façon dont on le dit. Et alors pour ce qui est de la façon de dire ça, je suis là, il a une maîtrise de l'outil, du mode d'expression philosophique qui est assez ahurissante à tous égards, qui fait que c'est pas facile de le prendre en défaut, ça c'est sûr.
Sur quoi, Jacques Bouvresse, actuellement ?
Ah, en ce moment, alors, j'essaie de terminer ce travail que j'ai entrepris sur la musique, ça paraîtra en deux tomes,
C'est encore un énorme travail.
Ça va être un gros, oui, c'est un gros travail. En tout cas, il n'était pas censé être gros, mais il est devenu gros. Alors, donc, il y aura un volume sur Helmholtz, qui s'appelle Helmholtz, c'est la théorie physiologique de la musique. C'est un volume, alors, pour le coup, assez technique, vous voyez, parce que j'ai dû apporter un certain nombre de précisions sur les travaux d'acoustique musicale, la relation de tout ça, évidemment, avec la perception de la musique, etc. La musique considérée, donc, sous l'aspect de la perception et un peu moins sous l'aspect proprement musical, c'est-à-dire esthétique. Et puis ça, donc, c'est quelque chose d'assez technique qui risque peut-être de rebuter un peu le public. Et le deuxième tome, qui lui sera beaucoup plus important, est fait de trois chapitres. Alors, il y en a un qui s'intitule « La musique chez les Wittgenstein ». Et là, je me suis intéressé de près au cas de Paul Wittgenstein, qui est le frère donc de Ludwig, qui est le pianiste pour lequel Ravel a écrit le
concerto pour la main gauche.
Voilà, exactement. Mais en réalité, il a demandé à un nombre considérable de grands musiciens, pas seulement Ravel, de lui écrire des œuvres pour la main gauche.
Bien sûr, parce qu'il avait perdu sa main droite, donc.
Exactement. Oui. Donc il y a un concerto de Prokofiev, il y en a un de Hindemith qu'on a redécouvert assez tardivement parce qu'il était resté dans les archives de son frère. Donc j'ai regardé d'un peu près le genre de relation que Lévi Wittgenstein avait avec la musique. Mais surtout, ce que j'ai regardé de près, parce que ça m'intéressait directement, c'est les relations de la famille Wittgenstein avec des musiciens comme Brahms, secondairement avec Wagner, parce qu'il connaissait quand même aussi assez bien Wagner. Et ayant commencé à faire ce travail, je suis allé voir aussi, comme je vous le disais, ce qu'il en était des relations de Nietzsche. Dont le cas présente des analogies avec celui de Wittgenstein. Voilà. Et alors tout ça m'a entraîné de plus en plus loin. J'ai lu la monumentale biographie de Max Kalbeck qui se trouve là-haut. C'est là-haut, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 volumes. Là.
Un
gros essai. C'est la biographie de Brahms par Max Kalbeck, qui n'existe pas de traduction française, si je me souviens bien. Et j'ai regardé de près, oui, j'oubliais, d'à peu près ce qui s'est passé entre Ravel et Paul Wittgenstein. C'était une histoire assez sanglante, puisque quand Paul Wittgenstein a reçu la partition du concerto de Ravel, donc il a invité Ravel et Marguerite Long, qui était en ce moment en train de faire une tournée en Europe centrale, il les a invités, ils ont... dans la salle de musique de Wittgenstein, donc dans la résidence de Wittgenstein, qu'on appelait le Palais Wittgenstein, il y a eu une soirée où Paul Wittgenstein a interprété le concerto devant Ravel et Marguerite Long, avec un deuxième pianiste dans le rôle de l'orchestre. Donc, ils ont joué une version du concerto pour la main gauche de piano. Et alors, Ravel était fou furieux parce que Paul Wittgenstein avait introduit des modifications qui n'étaient pas du tout prévues et qu'il a pas accepté. Mais ça a provoqué tout un drame. Dans un premier temps, Ravel a refusé que Paul Wittgenstein interprète le concerto. Bon, pour finir, ils sont quand même en partie réconciliés. Enfin, c'est une très longue histoire que j'ai racontée de façon un peu détaillée. Donc, Ravel est venu au moins une fois à cette occasion chez les Wittgenstein. J'ai constaté aussi en regardant la biographie de Brahms par Max Kalbeck que c'est chez les Wittgenstein probablement que Brahms a entendu ses dernières notes de musique, parce qu'il est allé assister à une répétition, je crois que c'était un quintet pour clarinette qui avait été primé. C'était un prix dont il est d'ailleurs lui-même le créateur. Et il y avait une répétition qui a eu lieu dans le salon de musique de Wittgenstein. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils s'étaient très bien outillés. Wittgenstein a prétendu qu'il y avait 7 pianos à queue dans la résidence de ses parents.
Il s'est donné la taille de la résidence.
Absolument. Ça c'est sûr. Alors ça c'est pour dire que donc Brahms est venu pour assister à la répétition de cette œuvre. Il avait créé un prix donc pour des compositions dans lesquelles entraînant au moins un instrument avant. C'était pour encourager la pratique des instruments avant. À la fin de sa vie, Brahms s'était converti à la clarinette. Il appelait Fräulein Clarinette, Mademoiselle Clarinette. Il a composé lui-même un quintet pour clarinette qui est absolument remarquable. Et alors, il était prévu qu'après avoir donné cette œuvre, donc qui était dû à un compositeur qui s'appelait Rabel, si je me souviens bien, il était prévu qu'on entendrait le quintet pour clarinette de Brahms. Et il a fait comprendre qu'il ne tenait pas du tout à entendre à nouveau son quintet en disant qu'il était suffisamment connu, qu'il valait mieux donner celui de Weber, ce qui a été fait. Et apparemment, c'est la dernière œuvre musicale qu'il a eu l'occasion d'entendre. Il était déjà très malade, enfin, il ne sortait pratiquement plus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que il habitait vraiment à deux pas de chez les Wittgenstein, tout près de l'église Saint-Charles-Borromée, ce qui fait que Max Kalbeck raconte qu'il a quand même pu encore rentrer avec beaucoup de difficultés chez lui. Mais en tout cas, c'est dans sa dernière maladie, la mère de Wittgenstein est allée le voir régulièrement. Enfin oui, il y a une proximité encore bien plus grande qu'on le pensait entre Brahms et les Wittgenstein. On pourrait dire entre les Wittgenstein et le monde de la musique en général.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Jacques Bouvresse, professeur honoraire, titulaire de la chaire de philosophie du langage et de la connaissance. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter un entretien avec Daniel Roche, titulaire de la chaire d'histoire de la France des Lumières. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.